course of our nation's history, the people of have rallied bravely whenever the rights of man have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Bonjour, bonjour, vous êtes sur Radio Béton et vous avez raison. Aujourd'hui, c'est une matinée un peu exceptionnelle parce que nos animateurs habituels, les deux Patrick, Mélanie, François, ont préféré prendre leur congé. Heureusement, Pascal est avec nous. Bonjour, Pascal.
Salut, François.
Alors, c'est exceptionnel. Vous êtes donc sur des hauts et des bas. Aujourd'hui, on va parler de livres passerelles. Autant vous dire tout de suite que cette émission, on pourra la réécouter mardi matin de 10h à 11h. On peut l'écouter aussi, Pascal, sur l'ensemble des réseaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram.
On écoute moyennement sur Facebook, hein. Enfin, quand on brief un petit peu là, mais on peut l'écouter en direct sur radiobéton.com.
Ah, voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on reçoit deux animatrices de l'association Livre Passerelle. Bonjour Emeline, bonjour Clémentine.
Bonjour.
Alors, tout de suite, autant vous dire qu'on en parlait un peu avant de commencer. Vous êtes déjà venu il y a quelques années, hein, oui. sur des hauts et des bas. Mais quand j'ai regardé votre rapport d'activité, j'ai vu que finalement, les objectifs de l'association dont vous allez me parler, finalement, vous avez tendance à les revoir, à les revisiter chaque année. Alors, est-ce que Clémentine, vous pouvez nous rappeler les grands objectifs et pourquoi vous devez les revisiter ?
On les revisite pas vraiment, c'est-à-dire que l'association évolue, nos actions évoluent, mais l'objet associatif est toujours le même. C'est la lutte contre l'illettrisme, l'échec scolaire ou toute forme de discrimination. Et pour ce faire, on se promène avec notre valise de livres partout dans le département. On sillonne le département.
Et au-delà, parfois.
Et au-delà. En formation, mais surtout en Indre-et-Loire, dans 40 lieux divers où la littérature est a priori pas attendue. Donc on se déplace avec nos valises vers le public.
Et en fait, les objectifs restent toujours les mêmes, mais on s'adapte aux partenaires, au terrain où on intervient. Et c'est en restant sur les mêmes prérogatives, c'est-à-dire le partage de la langue, le partage de la langue écrite, qu'ensuite on peut effectivement inventer des formes assez sympathiques et assez diverses d'intervention.
Alors comment on lutte contre l'illettrisme en lisant des albums ? Vous allez probablement nous en lire un ou deux pendant cette émission. C'est quoi l'acte de lire et qu'est-ce que ça apporte ? Alors d'abord, qui lit et qu'est-ce que ça apporte finalement à celui qui écoute ? Oui,
alors peut-être pour remonter un petit peu dans l'histoire, hein, Livre Passerelle, au départ, c'est la rencontre avec des adultes en situation d'illettrisme. Ces adultes qui, de par la confiance tissée avec eux, de par des échanges poussés sur leur histoire de vie, nous ont raconté comment ils n'avaient pas rencontré la langue écrite jeune, comment ils n'avaient pas découvert l'autre dans la langue, découvert la langue et découvert tout ce que ça peut impliquer. On aura l'occasion sans doute d'en reparler, mais dans la construction du futur adulte et aussi du futur élève, etc. Comment est-ce qu'à un moment donné, l'acte de lire, en dehors de tout rapport institutionnel, ne s'est pas construit. Et c'est en se rendant compte que finalement, il valait mieux, plutôt que d'essayer de réparer, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, une marche ratée dans l'enfance, comment est-ce qu'à un moment donné, on pouvait retourner dans l'enfance pour partager de la langue, de l'écrit, encore une fois dans des lieux toujours entre, pour ne pas avoir de
ça veut dire quoi, des lieux entre ?
Des lieux entre, ce sont des lieux qui, a priori, ne sont pas destinés à l'animation lecture. C'est-à-dire qu'on va dans les salles d'attente de PMI, on va sur les trottoirs.
De protection maternelle et infantile.
Du conseil général, là où les jeunes parents viennent avec leurs jeunes enfants pour le suivi médical. Donc nous, on est dans la salle d'attente. On peut être à l'entrée des écoles sur le trottoir pour accompagner les familles en histoire jusqu'à la salle de classe. On peut être dans les centres sociaux. On va être un petit peu partout où, a priori, on n'attend pas des valises de livres. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'être là où l'enfant est avec son parent. Notre objectif n'est pas de raconter des histoires aux enfants, mais bien de partager de la littérature dite de jeunesse avec des familles, parce que c'est là que ça se joue.
Alors, qu'on se comprenne bien, donc vous lisez, vous faites lire des albums de la littérature jeunesse à des adultes, entre autres. À des adultes, entre autres. Mais alors, les adultes, quand on leur confie un album jeunesse, ça doit leur faire bizarre quand même.
Bah, comme toute bonne littérature, si elle est suffisamment bien sélectionnée et bien choisie, elle s'adresse à tout à chacun. L'idée, c'est à travers un album jeunesse.
Bébé, comment Non, on vous dit pas ça, on vous dit pas.
On a pu nous le dire. C'est... Si, c'est vrai que souvent on se retrouve à nous dire, ben, ce sont des histoires pour les enfants, oui. et à nous, de par notre posture professionnelle, de leur prouver que cette littérature, elle parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'on on lit pas tout en littérature de jeunesse. On est très sélective, non pas en
on
termes.
On y reviendra,
de...
oui.
Voilà, on est très sélective et ça nous permet de d'avoir mille et une histoires qui touchent l'adulte parce qu'ils font écho. Parce que toutes ces histoires font écho à des problématiques, à des prérogatives.
Oui, alors je vous ai coupé, excusez-moi, Clémentine.
L'idée, c'est quand on propose une lecture d'album à un adulte, il y a l'acte de proposer. Voilà, j'ai envie de vous faire partager une histoire qui, moi, m'a plu. Je vous en propose plusieurs, vous en choisissez une. Et s'il y en a une qui vous tente, on se la raconte. Et nous, on sait ce qu'on va proposer à travers les échanges qu'on a eus avec ces personnes-là. Et il y a des albums qui vont toucher plus intimement l'adulte que les enfants parce qu'ils font écho à leur part d'enfance, à ce qu'ils ont pu vivre auparavant.
Bien, et alors les adultes, oui, vous voulez en citer, c'est ça? Vous
oui, citer, on, peut, hein on peut en citer.
Voilà, part d'enfance et surtout, comment vous incitez l'adulte parent, du coup, hein, le père ou la mère, de lire devant, alors, les enfants ou l'enfant, je ne sais pas, c'est des lectures que vous faites devant un groupe ou plutôt dans une relation individuelle avec l'enfant.
On s'adresse d'abord à une personne, à un enfant sous le regard de son parent, pour que le parent puisse voir que son enfant prend du plaisir à écouter une histoire et qu'il a envie de reproduire ce plaisir à la maison. Tout simplement pour après impliquer des pratiques culturelles, familiales, quotidiennes. Si l'adulte voit que son enfant prend du plaisir et que lui-même a pris du plaisir à écouter une histoire, peut-être qu'il aura envie à son tour de partager cette histoire avec son enfant à la maison.
Ça marche toujours, ça?
Oui, quasiment.
Il n'y a pas de frein.
Après, comme le disait Clémentine, on est sur vraiment l'invitation. Donc, il y a des familles à qui on raconte sans qu'à aucun moment on impose à l'adulte de se saisir de l'objet. C'est-à-dire qu'on est toujours là. Nous, on n'est pas là pour mettre les adultes en difficulté. Donc, on est toujours là en tant que porte-voix des histoires qu'on partage. Et à un moment donné, notre objectif, c'est bien sûr que dès qu'on est le dos tourné, les enfants et leurs parents vident la valise et la partagent sans nous. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait dans la répétition. C'est aussi pour ça que nos lieux d'animation sont des lieux réguliers. On ne fait jamais du one-shot, on ne fait pas de l'événementiel. On va régulièrement aux mêmes endroits, rencontrer les mêmes familles. Et c'est avec ce lien de confiance et cette habitude du plaisir pris dont Clémentine parlait, qu'à un moment donné, c'est quand même furieusement agréable de se saisir de ce plaisir pour soi et pour les siens.
Bon, je vais vous taquiner parce que quand même, la lecture à voix haute, c'est différent de la lecture non verbale, voilà, hein. Et donc comment faites-vous, parce que c'est une technique, la lecture à voix haute, il y a de la respiration, il faut savoir, il y a les groupes de souffle, où est-ce qu'on doit s'arrêter, la ponctuation, etc. Comment faites-vous pour faire passer ça? Comment finalement les parents peuvent devenir des techniciens de la lecture à voix haute?
On leur demande pas de devenir des techniciens, non, c'est pas du tout notre objectif. L'objectif, c'est vraiment de transmettre du plaisir. C'est vraiment l'essentiel. Et nous, forcément, on s'est entraînés à lire à voix haute avec des comédiens professionnels où on se raconte des histoires entre nous. Et on va toujours lire des albums qui, d'abord, nous parlent, nous touchent et qu'on a envie de faire partager. On ne va jamais lire une histoire qu'on n'a pas envie de faire partager parce qu'on n'y voit pas d'intérêt. Pour nous-mêmes déjà.
L'idée, c'est vraiment pas d'en faire des techniciens. Nous, on doit bosser pour être à la hauteur des gens à qui on raconte. Donc, on bosse nos lectures, on bosse notre souffle, nos respirations. Mais à un moment donné, après, c'est un rapport intime. Hein, c'est le principe de la lecture. C'est vrai que ce que j'entends derrière votre question, c'est l'idée que la lecture, c'est pas un acte intime, c'est un acte intime plus qu'un acte collectif, hein, ou un acte.
Voilà. C'est un peu ça, oui.
Et nous, on n'a pas inventé le truc, hein, on est allé chercher des gens qui avaient étudié tout ça de façon assez théorique et en fait on se rend compte que c'est le plaisir qui donne l'envie ensuite de s'y mettre, de s'y coller, et à aucun moment il y a une idée de technique ou de modèle ou etc. Donc après les familles s'en saisissent, on a même des parents qui sont en grande difficulté avec la langue mais qui se lancent rien que parce qu'ils ont envie de s'y coller mais sans aucun... il n'y a pas de technique là-dedans. Enfin, y a, vis-à-vis d'eux, en tout cas, il n'y a pas de technique. Et,
Alors, je voulais parler, moi, d'adultes qui ont eu donc, une relation à la lecture qui a été difficile, hein, compliquée, lorsqu'ils étaient à l'école. Parfois, se sont arrêtés plus tôt qu'il ne le fallait, en tout cas, pour être de bons lecteurs. Donc, je suppose que ça doit parfois mettre des parents un peu mal à l'aise, en tout cas, hein, de replonger et surtout de se mettre au même niveau que leur enfant. Et parfois, l'enfant lit mieux
bien sûr.
Le père ou la mère.
Bien sûr.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes, notamment ceux qui se trouvent en situation d'illettrice, qui ont un passé douloureux avec le livre parce qu'ils y voient une dimension sacrée qui est reliée à l'école. Et l'idée, c'est un peu de désacraliser cette idée du livre et de leur dire que le livre, c'est pas uniquement relié à l'école et qu'il n'y a pas d'intention pédagogique dans nos façons de proposer des lectures, bien au contraire.
Ah, et ensuite, oui. quand les parents peuvent se trouver en difficulté, alors soit, comme je vous le disais, on continue de toute façon de lire aussi longtemps qu'ils ne s'en saisissent pas. À aucun moment, il n'y a pas de moment où on leur dit « bon, bah, maintenant, débrouillez-vous ». Et puis, c'est vrai que pour certains qu'on rencontrait régulièrement, en tout cas, on a toute l'expérience de gens qu'on a rencontrés régulièrement, avec qui on a partagé des histoires avec ou sans enfants auprès d'eux, et qui, à un moment donné, ont pu se lancer dans un combat bien difficile qui est celui de réapprendre. Apprendre à lire et à écrire à l'âge adulte. Et ça, on a un réseau de... Alors, ça dépend des territoires hein, sur le département, mais on a des associations qui, eux, prennent en charge, en relation d'elles, ces adultes pour leur permettre de se réapproprier le lire et l'écrire. Et ça, c'est un sacré parcours et il faut... Voilà.
Alors, justement, vous me tendez une perche, vous parlez association, on aurait presque pu commencer par là, mais donc, quelle est la taille, la dimension de votre association? Il y a 5 salariés, j'ai vu que c'était toutes des femmes d'ailleurs, hein.
Oui.
Heureusement, vous avez un président homme,
oui.
Hein, bon, mais heureusement, c'est une façon de parler, c'est pour l'équilibre, en tout cas, la parité.
Il n'y a pas de parité,
c'est pour la parité,
oui,
c'est là. Et donc c'est... 5 salariés et puis
70 bénévoles.
Et puis 70 bénévoles.
Et oui, grâce à eux, on pourrait pas du tout prétendre au bilan d'activité qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas cette grosse équipe de bénévoles avec nous au quotidien, tant sur l'aspect de la gestion associative que sur les animations où elles sont, je dis elles parce qu'elles sont majoritairement des femmes, donc on va faire fi de la grammaire. Et elles sont toutes, elles sont avec nous sur le terrain, elles sont avec nous quand il faut faire des dossiers de subvention, elles sont avec nous quand il faut rédiger le bilan d'activité. Et
Oui, il y a une dimension coopérative notre association. On ne peut pas dire que l'association est portée par 5 salariés, non. La vraie équipe, c'est les bénévoles et les salariés.
Et c'est le conseil d'administration.
Oui, aussi.
Et le conseil d'administration, bien sûr.
Avec le président, on peut donner le nom du président?
Bien sûr, c'est Alain Fievé.
Voilà, non, il faut le citer parce que c'est... Bon, voilà, c'est quand même un personnage sur tour, quand même,
hein,
faut dire. Hein. Donc là,
il est retraité.
Il est retraité, mais avant,
il était libraire. Il était le propriétaire de la librairie Libre Enfant, qui est située rue Colbert.
Alors, elle existe toujours, hein,
bien sûr.
On invite
nos
auditeurs à y courir. Libre Enfant,
toutes les
avec
pépites.
Des choix inouïs de
et des libraires qui vous conseilleront. Voilà.
N'allez pas sur Internet, allez à Libre Enfant.
Ah non, pas Amazon. Hein.
Non plus.
Non. On va à Libre Enfant, on commande si l'ouvrage n'est pas là, mais en tout cas...
Et on se fait raconter des histoires, parce que les libraires, pour conseiller, racontent aussi beaucoup d'histoires.
Ah oui, il y a un petit coin. Vous rappelez l'adresse?
Alors, c'est rue Colbert, je ne sais plus exactement le numéro, moi. Tu connais
Rue Colbert.
Rue Colbert. Rue Colbert à gauche.
Une maison à colombage.
Voilà. Tout le monde connaît la librairie Libre Enfant.
Bon, voilà. Donc, on va reprendre le cours de notre discussion. Après, Pascal, peut-être une première pause musicale?
Wrist is GPS chips, options are limited. Open air prison shit. Do you need an another hit. Pump up the kilowatts and the beats don't stop. Free your mind and exercise your rights to say fuck. Won't be a prisoner or a modern day slave in a man-made cage. It's true, we can't be tamed. Some things can't be contained. The pain is not the same. They should bow their heads in shame. Suppress the truth, they said it. Remember, don't forget it. But please, my mind's infected. You need to get connected, people. You need to get connected, people. While I play the comedy of life, mind entertainment torture seems to be my crime, be my crime, be my crime. So untie my chains at last, got no time to lose, cause time moves so fast, so fast, so fast. While I play the comedy of life, mind entertainment torture seems to be my crime. How we feel and dress your ego karma. It sucks the melodrama. Here to clean it up, photograph the final cut, smoke it up and hit the cush. These beats you can't touch. Open eyes on the situation, invested information. Don't get stuck in the isolation. Communicate your thoughts to open closed doors, to find your own riches, to sew your own stitches. Perfect the music edit, you know we gotta bend it. For real, we play collective. Get wild and epileptic. Don't forget it like amnesia. Truth is under pressure, no matter what the weather, people. While I play the comedy of life, mind entertainment torture seems to be my crime, my crime. So untie my chains at last, got no time to lose, cause time moves so fast, so fast. While I play the comedy of life, mind entertainment torture seems to be my crime, my crime. So untie my chains at last, got no time to lose, cause time moves so fast, so fast.
Voilà, on vient juste d'écouter In the Maze de RVDS, qui veut dire rue vieille du sample. De retour sur Des Hauts et Des Bas avec Emeline et Clémentine de l'association Livre Passerelle. Vous intervenez aussi auprès d'un public un peu particulier, c'est ce qu'on appelle la petite maison. Hein, ça se trouve juste en face, la maison d'arrêt de Tours, c'est là où se réunissent les familles et les enfants d'ailleurs, des détenus. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, ce que vous y faites vraiment et quel genre d'album finalement vous pouvez leur lire ?
La petite maison, c'est le nom donné par les personnes qui sont accueillies. Le vrai nom, c'est le comité d'aide aux détenus qui est porté par l'entraide ouvrière. Donc, c'est un espace d'accueil où on propose un café, un coin canapé pour échanger. Et nous venons partager des histoires tous les 15 jours à ces familles qui attendent d'aller au parloir. Donc, comme c'est une maison d'arrêt pour hommes qu'on a à Tours, c'est essentiellement des femmes que l'on rencontre et avec des parcours de vie parfois compliqués. L'arrivée à la petite maison n'est pas simple parce qu'on a peur, elles ont peur d'être jugées, elles ont peur de partager un pan de vie qui leur est particulièrement intime et sur lesquels elles n'ont pas forcément envie d'échanger. Donc nous, on est dans cet espace pour les accueillir et pour leur proposer des histoires. Et j'avais particulièrement envie de vous lire un album qui fait sens là-bas, qui s'appelle « La rue qui ne se traverse pas ».
Eh ben, on vous écoute.
Donc, simplement pour situer, c'est qu'il y a la maison d'arrêt, il y a la rue, et en face, il y a le...
Oui.
Il y a le comité d'aide aux détenus.
Oui, c'est ça. Il y a le grand portail, hein, la rue Saint-Martin.
Oui, hein, rue Henri-Martin.
Ouais. La rue Henri-Martin, effectivement, et la petite maison.
Et donc, il y a cette rue qui ne se traverse pas. La rue qui ne se traverse pas, de Henri Meunier et Régis Lejon, aux éditions Notary. Elle aimait les moineaux, lui pas. Il aimait rêver ce que rêvent les moineaux, elle pas. Elle habitait au cœur de la rue qui ne se traverse pas, fenêtre sur rue. Lui vivait juste en face, fenêtre sur elle. Entre deux, il y avait le vide. Entre deux, il y avait le royaume délicieux et gai des moineaux, virevoltant, léger et suspendu, qui seul traversait la rue qui ne se traverse pas. Tous les jours, ils s'observaient depuis leur fenêtre. Ils ne faisaient rien d'autre, ou si peu. Ils s'aimaient. Ils croyaient s'aimer. Ils s'aimaient peut-être. Ils s'aimaient comme on aime quelqu'un à qui l'on ne ressemble pas, quelqu'un que l'on ne connaît pas. Ils s'aimaient comme on s'aime quand un gouffre vous sépare. Et par-dessus le vide, de l'un à l'autre, leurs pensées virevoltaient sur le dos des moineaux, jusqu'à ce qu'arrive le soir, la nuit et leur lot de questions. Est-il possible de s'aimer pour l'éclat d'un regard? Est-il possible de s'aimer quand le vide et les rêves vous séparent? Comment traverser la rue qui ne se traverse pas? Qui connaît le secret des moineaux? Chaque matin, elle disposait des graines au bord de sa fenêtre pour nourrir les moineaux. Chaque matin, des moineaux en essaim égayaient sa fenêtre. Chaque matin, elle et des battements d'ailes. Lui la regardait faire et nourrissait ses rêves. Avec elle, une terre moins ronde. Avec elle, le vacarme d'une vie. Il se sentait léger. Léger, il semblait s'envoler. Elle, de loin fidèle à sa rive, le contemplait ainsi, léger comme tenu par un fil en suspension dans l'air. Elle le savait moineau et poussait un soupir. Elle aimait les moineaux. Alors elle priait les moineaux de traverser pour elle la rue qui ne se traverse pas, chargée de quelques graines pour lui. Et puisqu'ils semblaient frères et sauraient se parler, de revenir ensuite pour lui confier le fruit de leur conversation. En recevant les graines, il les posait sur un coton humide pour qu'elles germent et avec elles que pousse cet amour impossible. Pour suspendre le temps, il racontait son dernier rêve à ses frères moineaux. Et ce rêve, souvent, ce rêve de moineau avait sa forme à elle. Elle attendait, patiente, et quand en retour les moineaux lui rapportaient ce rêve, elle en prenait l'allure. Le temps filait délicieux et gai, et le vol des moineaux allant de l'un à l'autre semblait tisser un pont entre deux cœurs en friche. Mais le soir venu, quand les moineaux s'éparpillaient pour regagner leur refuge nocturne, seuls restaient en suspendant l'air les séparant quelques questions têtues. Est-il possible de s'aimer pour l'éclat d'un regard? Pour quelques graines données, quelques graines germées. Comment traverser la rue qui ne se traverse pas? Et puis, je vous le jure, sur ma foi, sur mon honneur, un matin, ils n'étaient plus là, postés à leur fenêtre comme depuis tant d'années. De ce matin-là, parole d'oiseau, je ne sais rien de plus. Ont-ils enfin compris, comme au moineau, l'équilibre est le même? Il suffit de savoir s'appuyer sur le vide. Le vacarme d'une vie est un battement d'ailes. Leurs deux fenêtres ouvertes étaient deux tableaux vides, étrangement parfaits, comme une œuvre achevée, l'aboutissement, ou comme une toile neuve, le commencement. Impossible de dire, Et à vrai dire, quelle importance. A-t-on besoin de connaître le secret des moineaux? A-t-on besoin de connaître les choses clandestines qui habitent le ciel et les cœurs amoureux?
Bravo quand je vous disais qu'il y avait quand même de la technique dans la lecture à voix haute. Hein. Parce qu'il n'y a pas seulement la voix, mais il y a aussi le regard, la gestuelle. Bon, hein, tout est là. Mais enfin, évidemment, je l'explique parce
c'est
que
c'est compliqué à la radio.
À la radio, c'est pas facile. Donc, vous intervenez dans ce milieu, vous intervenez également auprès des migrants. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Clémentine?
Auprès des, vous voulez dire au CADA ou
au CADA,
au
oui,
CADA.
Au CADA.
Alors en 2015 encore, Emeline, je dis en 2015,
Emeline,
non c'est pas grave.
Pardon, je suis désolé.
En 2015 encore, on y était. J'avoue que là, la perspective est compliquée, mais effectivement, on est intervenu à plusieurs reprises au CADA, donc au centre d'accueil des demandeurs d'asile à Joué-les-Tours. En fait, il y a deux barres d'immeubles qui sont effectivement dédiées à l'accueil des populations en attente, et donc avec des gens de diverses langues. La plupart des parents ne parlent pas du tout la langue française. Hein. Et puis, énormément d'enfants. Et c'est vrai que l'installation donc sur l'herbe, au pied du centre, voilà. Donc les enfants, en fait, tout le monde descend des appartements. Notre grand pari, c'était de faire descendre les parents pour que effectivement,
oui,
ce ne soit pas une animation à destination des enfants, mais bien que les parents s'y associent. Et puis, animation après animation. On a réussi, grâce à un partenariat avec le personnel du CADA qui était complètement partie prenante dans le projet, à faire en sorte que ces temps soient vraiment des temps dédiés aux familles qui descendaient, quelle que soit leur langue de naissance. Et on a eu l'occasion de partager avec eux de la littérature. Alors on pourrait toujours se dire, ben oui, mais ils ne comprennent pas le français, donc quel intérêt? Et en fait, on se rend compte de l'importance du bain de langage. Et on s'en rend compte ici, mais aussi dans d'autres lieux où on rencontre des familles non francophones, à quel point les parents aiment baigner dans cette langue avec laquelle ils ont peut-être un rapport un peu moins sympathique au quotidien, hein, et donc de baigner dans cette langue pour pouvoir y entrer et pour pouvoir suivre leurs enfants qui, eux, scolarisés, vont très vite, et parce qu'en plus, les enfants vont beaucoup plus vite que nous, vont très très vite rentrer dans la langue française, etc. Donc c'est aussi une façon de continuer à faire famille dans la langue et de ne pas avoir une différence entre des enfants qui acquièrent très très vite la langue française et des adultes qui resteraient sur le chemin du français et de ce qu'ils en ont besoin.
Pour compléter, Clémentine.
Oui, l'idée, c'était d'intervenir vraiment auprès des familles, parce que dans ces parcours de vie extrêmement difficiles, ils vivent toujours dans l'immédiateté, dans l'urgence, et c'est des parcours de vie qui s'adressent plutôt aux adultes, et en fait, finalement, les enfants suivent. Bien souvent, c'est eux qui deviennent traducteurs aussi des situations lesquelles les parents se retrouvent confrontés. Et donc là, c'était de créer des espaces où on prend le temps d'être en famille, on prend le temps de se raconter une histoire, même si ça dure pas longtemps, même si les familles venaient parfois que pour 10 minutes. C'était l'idée d'instaurer un lien entre les parents et les enfants, sous le regard des professionnels également, et de prendre le temps d'être, tout simplement.
Et puis je rajouterais aussi peut-être cette notion de reconnaissance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces animations lecture, c'était aussi le moyen pour les enfants comme pour les adultes de partager avec nous des choses qui peut-être n'avait pas intéressé grand monde jusque-là, je dirais bêtement ou simplement. C'est-à-dire qu'on a par exemple des magnifiques albums d'Atlas, et tout d'un coup, on avait un enfant qui nous expliquait d'où il venait, par où il était passé pour arriver jusqu'à nous. On a des histoires qui racontent des histoires d'ici, des histoires d'ailleurs. Et bien dans les histoires d'ailleurs, tout d'un coup, ils reconnaissent quelque chose. Et bon, là, c'est aussi des moments dans la vie où on est un peu paumé, et tout d'un coup, de retrouver dans l'album quelque chose qui fait sens pour soi, alors qu'on a l'impression d'être tellement dans l'étrangeté, dans un monde qu'on ne comprend plus ou qu'on ne comprend pas, ou dont on n'a pas les repères, que c'était aussi des grands moments de reconnaissance. Mmh. C'est-à-dire qu'eux aussi pouvaient trouver leur place au sein de la littérature de jeunesse. Tout le monde peut trouver sa place là-dedans, parce qu'il y en a pour tout le monde.
Les lieux que vous choisissez sont c'est important également, parce que vous dites, là vous êtes au pied des barres d'immeubles à Joué-les-Tours, donc au CADA, mais j'ai l'impression que vous privilégiez souvent l'espace extérieur.
Enfin, bon, ouais. Donc, surtout tant quand que, la, beau. Tant quand, que la météo quand le
temps,
peut.
Voilà, quand le temps le permet, ouais. Vous avez une attirance pour les espaces publics à l'extérieur. Pourquoi ce choix-là?
Notre idée, c'est d'être sur le chemin des gens. C'est-à-dire on fait pas une animation lecture où on dit aux gens venez dans tel endroit, à tel lieu, à telle heure, etc. Notre idée, c'est d'être sur leur chemin de vie pour que la langue soit sur leur chemin de vie. Et donc, ça peut être effectivement le trottoir parce que tout le monde prend le trottoir le matin pour aller emmener ses enfants à l'école. Tout le monde passe par là. Ça peut être
un jardin, un banc.
Voilà, n'importe où où on va. Alors après, il nous appartient de créer le moment de rencontre parce que c'est pas évident d'être dans la rue et d'interpeller quelqu'un en lui proposant une histoire. Mais c'est vraiment l'idée de ne pas exiger des gens qu'ils viennent jusqu'à nous, mais bien nous d'aller jusqu'à eux. Et puis après, il y a bien des moyens de se donner rendez-vous encore au-delà. Oui. Mais la première rencontre, elle est fortuite, elle est inattendue.
Vous dites que ça favorise le vivre ensemble, comme expliquez-nous.
Déjà, on réinvestit l'espace collectif. C'est-à-dire que les espaces comme ça, le trottoir, il est à tout le monde, il n'est pas à personne. Oui. Le parc, il est à tout le monde. Une salle d'attente, certes, on est là pour attendre le médecin ou la puéricultrice, mais finalement, c'est un lieu qui peut être un lieu de vie si on le nourrit. Si on n'y vient que pour attendre, effectivement, ça va être assez limité. Et donc, cette idée de permettre à l'espace collectif d'avoir un moment de vie. Et puis, les gens qui se rencontrent sur nos animations, ils se connaissent pas avant, pour beaucoup. Donc, ils se retrouvent ensemble, effectivement, à vivre ensemble un moment qu'ils n'avaient pas imaginé.
Bon, on va te faire une... Excusez-moi. Vous aviez fini?
Non, pas de problème. Moi, je peux en parler pendant deux heures. Donc,
on va reprendre, bien sûr, donc avec vous, avec Clémentine, Emeline de Livre Passerelle. On reprendra après cette deuxième pause musicale. Il s'agit de Dub Mood de Art X.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out.
Voilà, là on vient juste d'écouter Dread de Underground. Alors, on reprend où on en était avec Emeline et Clémentine de l'association Livre Passerelle. On parlait du vivre ensemble qui était sous-tendu par votre action. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ?
Ben, disons que c'est vrai que c'est une dimension qui est essentielle dans notre activité, parce que c'est pas quelque chose qui est nouvellement politique et il faut en parler. Le vivre ensemble a raison d'être, il faut vraiment insister là-dessus. C'est un constat qu'on fait aussi avec les professionnels, partenaires avec qui on travaille. Il y a de plus en plus de familles isolées, de gens qui sont à la recherche d'un emploi, à la recherche d'espace où ils peuvent rencontrer les gens de manière libre et simple. Et il y a plus vraiment de lieux comme ça. Et l'idée, c'est que quand on va à la rencontre des familles, quand Emeline dit qu'on va sur leur chemin, c'est leur dire que voilà, on peut être dans la rue, on peut créer des espaces de parole, et puis on peut aussi s'approprier des structures comme des centres sociaux. On peut aussi aller à la bibliothèque, parce que la bibliothèque, on aime beaucoup le dire à l'association, mais c'est vraiment important, c'est le dernier espace public ouvert à tous dans la gratuité. Et donc c'est permettre à ces personnes un peu isolées d'aller vers les autres pour mieux se sentir et prendre place dans la cité.
D'accord.
Et donc, oui. Simplement pour préciser, ce vivre ensemble, ce n'est pas Livre Passerelle qui le décrète à un endroit, clairement. Oui. C'est une alchimie entre l'action et puis tout le soutien des partenaires. C'est-à-dire que localement, où qu'on soit, puisqu'on est un petit peu répartis géographiquement sur le département, on ne peut faire ce qu'on fait que parce qu'on travaille de très près avec des centres sociaux, avec des animateurs, avec des relais d'assistants maternels, avec tout un tas de gens qui sont ancrés sur les territoires et qui nous permettent et ensemble, en fait, on crée l'émulsion qui créera ce lieu improbable qui n'en était pas un au départ.
D'accord. Donc, parmi votre public, si je puis dire, il y a bien sûr les enfants, il y a les adultes, mais il y a aussi des adolescents. Et vous arrivez à faire lire des collégiens, des lycéens en lecture publique. Bravo.
Bah,
comment vous faites ?
Ils lisent les jeunes, c'est un mythe, ça, les jeunes ne lisent plus. Ils lisent tout le temps.
Non, mais à lecture à voix haute, donc s'exposer devant un public, ça, comment vous faites ?
Concrètement, on peut parler de la bibliothèque de rue qu'on mène de manière hebdomadaire. Donc, c'est à l'école Claude Bernard au Sanitas, à Tours. Donc, c'est tous les jeudis de 16h à 18h. Et donc, on a à la fois à cheval sur le temps scolaire et hors temps scolaire. Et c'est grâce à l'équipe pédagogique de l'école qu'on a pu ouvrir les portes de l'école pour permettre aux habitants, aux adolescents qui viennent chercher leurs frères et sœurs à l'école de venir s'inscrire dans l'animation lecture. Donc, auprès des adolescents, quand ils viennent chercher le frère et sœur, ils attendent parce qu'on leur demande d'essayer d'attendre qu'on puisse au moins partager une histoire avec le petit frère ou la petite sœur. Et puis, de manière, je dirais,
stratégique,
on s'adresse à eux en disant, voilà, est-ce que ça vous dirait qu'on vous raconte une histoire qu'on aime bien lire aux adolescents ? Alors, au départ, non. Puis, une fois, ils se laissent tenter, on en raconte une et en fait, ça fait vraiment sens chez eux.
Je crois que tout démarre avec le lien de confiance. On a une collègue qui travaille beaucoup sur un collège plus au nord dans le département. Et clairement, la première année, c'est une invitation. On regarde de loin, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, parce qu'il faut du temps pour tout ça. Et ça, c'est important aussi de prendre du temps. Et bien, au fur et à mesure, la confiance se tisse. Les ados découvrent des livres dits de jeunesse, mais dans lesquels ils se retrouvent complètement sur des histoires d'amitié, de sexualité, de rapports familiaux. Familiaux, d'ailleurs, de délires fictionnels. Et après, à chacun, après, effectivement, ils s'en saisissent. Et aujourd'hui, quand Catherine pose ses valises dans la cour du collège, eh bien, en fait, il y a quasiment plus besoin de médiateur parce qu'il y plonge, quoi.
Alors, justement, on va venir sur le choix des albums du comité de lecture qu'il y a à Livre Passerelle. Quels sont les critères du choix de ces albums et est-ce que vous censurez, en d'autres termes, est-ce qu'il y a des albums que vous refusez parce que vous pensez que ça risque d'être mal perçu, est-ce que vous vous retenez, même y compris sur les albums qui seraient de qualité, je pense et pour préciser ma pensée, à tout ce qui est éveil à la sexualité, donc quelques albums qui ont défrayé la chronique. Mmh, je pense à Tous à poil, notamment, qui avait été brocardé par Jean-François Copé il y a quelques
On peut rendre hommage à son auteur qui est décédé il y a quelques jours, d'ailleurs.
D'accord, d'accord. Alors, le choix des albums.
D'abord, on pourrait commencer par dire que un album, derrière un album, il y a un auteur, un illustrateur et une maison d'édition.
Donc, on brocarde tout ce qui n'a pas ces trois critères-là. D'accord. Et ça en fait déjà pas mal.
Oui.
Oui, on évite de lire
oui,
des
là,
albums.
Vous, vous pouvez le lire, vous pouvez regarder, nous dire ce que c'est, ça, histoire de... Histoire de Julie, que vous avez amené.
Alors ça, c'est un album qu'on aime particulièrement, qui s'appelle Histoire de Julie, qui avait une ombre de garçon, qui est paru d'abord aux éditions Être, qui maintenant, est... les éditions Être se sont arrêtées, donc ça a été repris par Thierry Magnier. Et c'est écrit par Christian Bruel, Anne Galland et Anne Bozelec. À sa sortie, donc il y a l'année de parution, c'était en 76. Donc ça, il date un peu, pour l'édition originale. À sa sortie, il a fait polémique parce que justement,
déjà,
il questionne, il questionne le genre, l'identité. Qu'est-ce qu'être une fille? Qu'est-ce qu'être un garçon? Est-ce qu'on a le droit d'être un peu entre les deux? Qu'est-ce qu'un garçon manqué? Et donc, Histoire de Julie, qui avait nombre de garçons, c'est l'histoire d'une, d'une petite fille qui s'interroge... sur ce qu'elle est, et ses parents la pointent du doigt en la désignant comme un garçon manqué. Donc c'est tout son questionnement, comment elle va réussir à puiser dans ses ressources intérieures qui lui sont propres pour se construire sa propre identité. Et à l'époque, notamment, il y avait une liste noire qui était sortie pour dénoncer cet album parce que il y a une phrase de cet album qui avait été pointée du doigt. Donc, une phrase sortie hors contexte, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Or, je crois que, notamment aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé il y a quelques temps, notamment à jouer les tours avec l'ABCD de l'égalité, je crois que cette question du genre, c'est un point fort de l'éducation nationale en ce moment, et ils ont raison de mettre l'accent là-dessus. Il y a par expérience, on peut constater que quand même, les enfants distinguent vraiment encore le garçon de la fille, et il y a des choses que les garçons ne peuvent pas faire, les filles ne peuvent pas faire, et c'est bien dommage qu'on en arrive là. Donc l'idée, c'est que cet album vient bousculer ces frontières-là pour apporter une autre vision et qu'on en sorte grandi.
Nous, on peut peut-être dire qu'en fait, en gros, on se sent... Bon, déjà, il faut savoir que toutes les productions littérature de jeunesse passent par un comité de censure. Hein, donc, on prend pas... Il faut être objectif, on prend pas grand risque.
Un comité de censure,
même, voilà, il y a, vous savez, la loi de 49, etc. D'accord. Donc, tous les albums passent par un comité qui se chargerait de la censure s'il y avait lieu. Donc voilà, c'est pour un petit peu... Voilà. Ensuite, nous, proprement, on n'a pas de démarche de censure, ça c'est une évidence. Et en même temps, on n'a pas non plus une démarche de provocation bête et méchante. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à prendre tous les thèmes les plus touchy, pour, parce qu'il faut en parler,
les plus
touchy, les plus risqués, les plus actualités, voilà. L'intérêt, c'est de trouver dans notre sélection, en fait, donc c'est premièrement cette idée qu'on est vraiment un livre et pas un produit dérivé, et puis qu'on puisse à un moment donné, sur n'importe quel sujet, avoir la pensée de l'autre. Alors qu'elle est esthétique dans l'album, puisqu'il y a l'aspect visuel. Bon, là, c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir vous montrer des images, mais on a l'aspect esthétique et on a l'aspect du texte. Et à un moment donné, c'est une alchimie entre le thème, le texte et l'image. Comment est-ce qu'à un moment donné, quel que soit le thème, que ce soit dramatique ou très drôle, comment il y a une pensée qui est déployée, qui est proposée au lecteur. Et voilà. Alors, d'ailleurs, on est 5 animatrices lecture. Il y a des livres qui font l'unanimité, certains qui sont dans certaines valises et pas dans d'autres. Il y a des albums qu'on met très longtemps à mettre dans nos valises. Par exemple, Pourquoi les petits garçons ont-ils toujours peur que leur maman les abandonne dans une forêt sombre et noire, de Vincent Ravalec et Anne-Marie Ada. On a bien mis 6 ou 8 mois avant de les mettre dans notre valise. On l'avait au bureau, on se le lisait. Et puis quand l'une ou l'autre s'est sentie plus à l'aise, et ben on est parti avec. Et là, on savait qu'on pouvait rencontrer n'importe qui avec cet album et l'assumer, en tout cas dans notre démarche.
D'accord, il faut donc se l'approprier,
ah oui,
hein, c'est ça.
Oui,
hein,
c'est...
Vous lisez, mais finalement, vous pouvez ne plus lire au bout d'un moment. Vous connaissez tellement bien l'album que.
Alors de toute façon, on dit toujours, on aime à dire que le seul risque qu'on prend, c'est le risque de la rencontre. Donc il faut qu'on soit, bon, ça fait partie de la posture professionnelle, hein, très à l'aise avec nos albums. Oui. Il faut qu'on les connaisse très bien si on veut pouvoir créer une rencontre de qualité avec la personne avec qui on lit. Il ne faut pas qu'on puisse être monopolisé par un texte qu'on connaîtrait pas, un tourner la page qu'on maîtriserait pas. Il faut quand même qu'on ait bien bricolé notre truc pour pouvoir après accueillir, proposer, inviter les gens à le partager avec nous.
Vous dites aussi que vous lisez exactement, vous ne transformez pas les phrases, vous ne sautez pas des phrases, vous lisez exactement ce qui est écrit, un peu comme nous sur Radio Béton, on ne coupe pas un morceau de musique et vous faites pareil, vous, avec les livres. C'est ça ?
On n'explique pas les mots de vocabulaire qu'on pourrait présager que les enfants ne comprendraient pas. On ne chante pas un truc parce qu'on trouve que c'est un peu long. Alors ça fait partie voilà. Non, jamais on chante. Il y a plusieurs raisons à ça.
Hein. C'est
crucial. C'est un point crucial.
Non, mais j'essaye de trouver la logique. Là-dedans, en quoi sauter une page, c'est vraiment...
Il y a plusieurs logiques.
Pas respectueux, c'est ça ?
Non, c'est l'histoire de la permanence du texte, hein, quand même. Je ne sais pas si tu veux...
Bien sûr, c'est l'histoire de la permanence du texte. C'est que, il y a des tranches d'âge où les enfants, ils aiment bien avoir une histoire et qu'on la répète.
Oui, oui.
Et souvent, c'est une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, il y a une... C'est pour eux, c'est se rassurer, en fait, se dire que on prend le livre et je suis sûre de retrouver ce que j'y ai déjà trouvé. Ça va peut-être questionner aussi d'autres choses, mais en tout cas, les mots seront les mêmes.
Si on saute une phrase, en tout cas, ils vont vous faire remarquer.
Ils vont te faire remarquer. Et ils auront raison parce que les mots ont, enfin, les auteurs, hein, quand ils choisissent leurs mots, ils prennent du temps. Ils savent ce qu'ils mettent derrière, ils maîtrisent pas forcément tout ce que, ils peuvent pas présupposer de ce que ça va faire émerger chez les personnes. Mais en tout cas, les mots sont finement choisis. Et nous, on n'est pas auteurs, on n'est pas là pour sélectionner leurs mots.
Et puis, ça serait vraiment un jeu de dupes. On le supporterait pas, nous adultes, par exemple. Imaginez, on vous dit je vais te présenter un court-métrage ou un film, je vais t'en couper un peu parce que je trouve que ça c'est un peu long ou que ça c'est un peu compliqué, et le jour où vous allez oser aller au cinéma tout seul, vous allez vous rendre compte qu'on vous a vendu un truc qui n'était pas... Voilà. Donc si on veut à un moment donné que les enfants puissent retrouver, les familles puissent retrouver les albums dans les librairies, dans les bibliothèques, dans nos animations, et qu'à un moment donné ils puissent avoir confiance dans l'objet, il faut que ce soit permanent. C'est comme on ne peut pas chanter la moitié d'un morceau de musique parce que ça nous arrangerait à un moment donné et inviter les gens à rentrer dans la musique par ailleurs. Voilà. Et même les longueurs, ça fait
partie. Alors, on ne va pas chanter de morceaux de musique. On va en passer un, le troisième, et on reprendra notre discussion juste après Artix.
Thank you. These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
De retour dans Des Hauts et des Bas avec Clémentine et Emeline de l'association Livre Passerelle. Et Emeline qui va nous lire un album jeunesse qu'elle aime bien.
Que j'aime bien et qui est particulièrement adapté juste avant l'heure du déjeuner. Donc ça s'appelle Fin de loup. C'est écrit par Éric Pintus et Rémi Saillard aux éditions Didier Jeunesse. Encore une histoire qui commence par la fin. Celle qui te fait mal au ventre, qui te fait mal au cœur, te fait mal à la tête, fait mal partout. Tu as faim. La faim, c'est la faim, tu as faim. Tu ne sais plus très bien où tu es, tu ne vois pas très bien où tu vas. La faim, c'est la faim, tu as faim. Il ne faut pas que tu restes ici, à découvert. Les hommes ne sont pas loin, leur odeur fade est partout dans l'air. S'ils te voient, ils te tuent, c'est sûr. Ils ont encore, ils ont toujours peur de toi. Ah, si seulement ils avaient bon goût. La faim, c'est la faim, tu as faim. Là, ça va déjà mieux, non? Le couvert des arbres te rend presque invisible. Tu reprends du poil de la bête, les mille et un parfums de la forêt t'affolent, tu salives. La faim, c'est la faim, tu as faim. Crac, voilà, bing, boum, aïe! Par la barbe d'Isengrin. Pas de chance quand même, en plein dans une fosse à ours. Alors qu'il n'en reste qu'un dans tout le pays, les hommes n'ont vraiment que ça à faire, des pièges. Pas de bol, la faim, c'est la faim, tu as faim. Tu as beau essayer, c'est inutile, tu ne t'en sortiras pas. Trop haut. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les louves, c'est bien fini, c'est pour toujours. Tu n'as plus qu'à vendre chèrement ta peau, les hommes ne vont pas tarder. En attendant, garde tes forces. Pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Les seuls bruits qui te parviennent sont les gargouillis de ton estomac. La faim, c'est la faim. Tu as faim. Chut ! C'est quoi ça ? Des pas ? Mais chut, non, dit Zengrin. C'est ça ? C'est bien un bruit de pas, mais des petits pas. Un enfant. Oh, tant mieux, un enfant, c'est innocent, c'est gentil. Tout n'est peut-être pas perdu. Un enfant, c'est mignon, ça peut même être tendre. La faim, c'est la faim. Tu as faim. Des tout petits pas ? Non, c'est pas vrai. Deux oreilles toutes grandes ? Non, c'est pas possible. Des yeux tout petits ? Non, c'est un rêve. Deux dents toutes grandes ? Non, c'est un cauchemar. Non, pas lui. Oh, lapin ! Pourvu qu'il ne t'ait pas vu. Ouah, l'autre ! Et j'y crois pas. Et il fait bon au fond de ton trou ? Le maillon supérieur de la chaîne alimentaire ? Tu parles. D'habitude, tu me courses, hein ? Mais là, tu fais moins le malin, hein ? Attends. Attends, ne bouge pas. J'en profite, ça fait longtemps que j'ai des trucs à te dire. Ça va ? C'est bon, tu m'écoutes là. Voilà, bon, alors dans l'ordre. Aberration de la nature, béni oui-oui, cérumène tout baveux, dégonflé du cerveau, espèce en voie de disparition, fiante de la forêt, gringalet grincheux, hématome, imbécile, incapable, idiot, je barjacasseur, cas désespéré, lombrique lamentable, mal poli, nullité nulle, odeur de vieux, prout, poisson pourri, quadrupède pas fini, résidu biologique. Saucisse sur pâte, tête d'œuf, ustensile inutile, varicelle, oissin, xénophobe, hyponomeute, zozo zinzin, zozo zinzin, zinzin, zozo, zozo zinzin, zinzin, zozo, et lapin de chanter, et lapin de danser, et lapin chante et danse autour du trou, et lapin danse et chante trop près du trou, et lapin glisse dans le trou. Lapin glisse, glisse encore, glisse toujours, et lapin essaie de se rattraper. Loulou, loulou, attends, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Tu sais, c'est même beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. En fait, l'important est de ne surtout pas se fier aux apparences. Tu comprends, dis, tu comprends. C'était pour de rire, toutes mes moqueries. C'était des blagues. Parce que pour de vrai, hein, pour de vrai, je t'aime beaucoup, tu sais. Rassure-toi, lapin. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Fini la fin. Pour combien de temps ?
Ah, merci, merci Emeline pour cette lecture. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps, à peine ? Oui, on nous fait signe que oui, Pascal. Pour parler des auteurs, illustrateurs en tout cas, que vous accueillez en résidence pendant une longue période.
Oui.
Et la dernière que vous avez accueillie, c'était qui ?
Alors, c'était Clémence Paulet, une illustratrice essentiellement jeunesse, elle qui a d'ailleurs illustré notre bilan d'activité. Nos résidences, c'était la 7e, donc là, on va enchaîner la 8e année. Les auteurs viennent pendant 4 mois. Donc 3 mois à Tours et 1 mois supplémentaire à la Ville aux Dames, porté par le centre social Camille Claudel. L'idée, c'est que les auteurs-illustrateurs viennent ici pour nourrir leurs réflexions, leurs pratiques artistiques. Mais la particularité de la résidence que l'on propose, c'est d'aller à la rencontre du public. Donc, il y a 80% du temps qui est dévolu au temps de création et 20% de rencontres avec le public. Donc, c'est à la fois des publics scolaires, mais également des publics que l'on rencontre dans des centres sociaux. Ça peut être aussi lors de notre atelier passerelle qu'on organise à la bibliothèque Paul Carla, qui est un espace de convivialité également pendant une heure tous les jeudis de 14h à 15h. L'idée, c'est vraiment de permettre à l'auteur ou l'illustrateur de rencontrer un public qu'il n'a pas forcément l'occasion de rencontrer dans son parcours artistique.
Bien, bien, bien. Et le suivant, ça sera ? On ne sait pas pour l'instant.
Sous réserve de validation du dossier, nous aurions plaisir à accueillir Valérie Dumas.
Publié aux éditions Onfay, basé à Amboise.
Bien, bah écoute, on va prendre, on va conclure, on va conclure. En tout cas, on avait d'autres questions, mais enfin, voilà, le temps est passé peut-être trop vite.
On reviendra.
Vous rejoindre, enfin, vous nous rappelez où vous êtes, comment on peut vous rejoindre, c'est-à-dire aller à vos animations, les fêtes de quartier. Dites-nous où on peut vous trouver dans les prochaines semaines.
Alors, Livre Passerelle est basé Place Raspail, oui. Juste à côté du CDDP, donc 3 Place Raspail, appartement 7. Donc, on n'est pas toujours là puisqu'on est souvent sur les routes avec nos valises, mais passez un petit coup de fil avant pour pouvoir être sûr d'être reçu. Et puis, sur Tour, il y a donc les ateliers hebdomadaires que Clémentine parlait, l'atelier Passerelle et la bibliothèque de rue le jeudi après-midi. Là, on voit avec bonheur le printemps et l'été arriver, donc on va être sur un certain nombre de bibliothèques de rue. Dans différents quartiers de Tours, avec tout un tas de partenaires, les PEP, avec le Ludobus, les centres sociaux, des quartiers, etc. On est dans les salles d'attente de PMI un peu partout sur le département, milieu rural, milieu urbain. Les semaines de lecture publique à Amboise.
Ici à Gentiana, une fois par mois pour temps Maman, Papa, Samedi et moi, et une fois par mois le mercredi après-midi de 15h à 17h pour un temps qui s'appelle La Valise à Livres.
Merci beaucoup Emeline,
merci
Clémentine
vous.
Pour vos lectures et pour votre participation. On se retrouve sur Des Hauts et Des Bas la semaine prochaine, samedi prochain. On aura une émission sur deux sujets, on aura des ordinateurs bricolés, tout ça pas cher, hein. Et puis un sujet sur le centre de Pontourny, le centre de déradicalisation.
Ouais.
Ciao, à bientôt.
Citizens, hear me out. This could happen to you.